Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress ? Déstress.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Toujours fidèle au rendez-vous, le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Comment ça va, Jean-Paul ?
Ça va, et j'espère pour vous aussi.
Mais oui, ça va, on apprend. Ces émissions, moi, depuis deux semaines, c'est le bouleversement, d'ailleurs, de beaucoup d'entre nous, puisqu'on a appris que cette synergie magnésium-vitamine B6 pouvait faire des miracles. En tout cas, qu'il ne fallait pas la prendre comme ça à la légère. D'accord, on va pas tout refaire, mais j'imagine qu'on va même peut-être en reparler aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on va évoquer un sujet qui est la silhouette de la femme. En plus, c'est bien parce qu'on arrive dans les beaux jours, là, très beaux jours, donc c'est vraiment d'actualité. Pourquoi la silhouette de la femme peut-elle changer à la ménopause? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Si vous avez la réponse, est-ce que c'est, quand vous dites peut-elle changer, ça veut dire que ce n'est pas systématique d'ailleurs?
Non. Tout est possible, il y a une grande diversité de personnes, de génétique, d'alimentation, d'activité physique, etc. Bon. Donc, mais il y a une tendance à une déféminisation de la silhouette féminine qui perd des rondeurs vers le bas et la graisse repasse au-dessus. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez que ce sont les estrogènes qui sont responsables de la multiplication des adipocytes, hein, un caractère sexuel secondaire. Et les rondeurs des femmes, fesses, hanches, cuisses, tout ça, c'est pas uniquement pour être attractive. Dans l'évolution, je pense pas que c'était tellement prédominant, mais ça sert de capital énergétique, hein, pour la fécondité. D'ailleurs, on peut pas être pubère sans une certaine masse grasse autour des hanches. Et les femmes qui maigrissent trop, elles sont plus fertiles. Donc, c'est aussi une réserve nécessaire pour assurer l'allaitement. Le lait, vous rappelez, maternel, est enrichi en acides gras qui sortent quand les œstrogènes baissent de ces cellules pour enrichir le lait qui soit bien énergétique pour la croissance du nourrisson. Donc, vous rappelez que pendant la grossesse, les taux d'œstrogène explosent à des hauteurs vertigineuses, ce qui augmente le stockage des acides gras. À la fin de la grossesse, le travail est déclenché par l'effondrement des œstrogènes qui étaient montés de manière exponentielle. Et donc, les adipocytes n'étant plus surstimulés, ils déstockent les acides gras qui circulent dans le sang, permettant la livraison quotidienne aux glandes mammaires pour la production du lait. Mais à la ménopause, le même phénomène de baisse des œstrogènes se produit, mais évidemment, ce n'est pas aussi brutal. Hein, c'est progressif, par contre, irréversible, du coup, définitif. Et de ce fait, les adipocytes des hanches, fesses et cuisses, de moins en moins stimulés, remettent en circulation les acides gras qu'ils contenaient, mais où vont-ils? Il n'y a plus d'allaitement, hein, pour les utiliser. Et bien, ils vont se redéposer dans le tissu adipeux et plutôt au-dessus de la ceinture. Et ça, ce n'est pas génial. Pourquoi vous rappeler? Parce qu'on l'avait vu en début de la chronique, hein, cette graisse au-dessus de la ceinture est associée à une augmentation de risque de surpoids, qui est notre sujet, mais aussi d'inflammation, d'intolérance au glucose, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Découverte, vous rappelez, de l'endocrinologue Jean Vague de Marseille, qui, comme souvent lors d'une découverte, n'a pas été écouté, puis on a mis quelques années à comprendre qu'il avait raison.
Bien, docteur, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour continuer la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré. Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio aborde aujourd'hui un sujet très important, comme tous les sujets d'ailleurs que vous nous proposez, Jean-Paul. Pourquoi le corps de la femme change-t-il ou peut-il changer à la ménopause? Vous avez donné une explication très, très claire en première partie de cette émission, que vous allez retrouver dans son intégralité, d'ailleurs, l'émission à partir de dimanche, 18h. Alors, les traitements hormonaux substitutifs ont été largement discutés, vous le savez. Quelle est votre position là-dessus, Jean-Paul, en tenant compte des risques associés?
comme la ménopause est désagréable, il y a les bouffées de chaleur, ça donne une tendance à la déprime. Bon, c'est pas très marrant pour la femme. Souvent, on s'identifie à la capacité d'être féconde, qu'il l'est plus. Bon, c'est une période un peu difficile. Et il peut y avoir une sécheresse vaginale qui compromet le plaisir lors des rapports sexuels. Voilà. Et puis surtout, on mettait en avant la prévention de l'ostéoporose, hein, qui augmente chez la femme, en particulier au niveau des vertèbres. Voilà. Et on pensait que tout ça est résolu. Bah, si les hormones disparaissent, on a qu'en donner. Voilà. Donc on balançait des œstrogènes et de la progestérone, surtout dans les pays occidentaux. Évidemment, les pays pauvres ne pouvaient pas se permettre de faire ça. Et ce qui est vrai, c'est que ça a efficacement permis de lutter contre les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. Mais la promotion était agrémentée de pas mal de promesses, hein, sur l'ostéoporose, comme on vient de le dire, aussi sur le ralentissement du vieillissement, la prévention des risques cardiovasculaires et même de déclin cognitif, certains parlent d'Alzheimer. Donc ça a été très, très, très extensivement mis en place aux États-Unis, en Europe, etc. Mais coup de tonnerre dans un ciel serein, en 2002 sont publiés les résultats d'une étude devenue célèbre, hein, Women's Health Initiative Hormone Therapy, qui a recruté entre 1993 et 1990 dans 4500 cliniques aux USA près de 28 000 femmes ménopausées entre 70 et 79 ans. Elles ont reçu soit un THS, un traitement substitutif, soit un placebo, comme se doit dans une étude. Et après seulement 5 ans de suivi, ils s'aperçoivent que les femmes sous THS ont une augmentation des risques de cancer de 26%, cancer du sein, d'infarctus de 29%, d'accident vasculaire cérébral de 41%, d'embolie pulmonaire de 113%. Quand même, quelques avantages, hein, une réduction de 17% des cancers de l'endomètre, 37% moins de cancers colorectaux, 34% de fractures du col du fémur. Au total, pour 10 000 femmes, le THS a provoqué 7 accidents cardiaques, 8 accidents AVC, 8 embolies pulmonaires, 8 cancers du sein invasifs, ont évité 5 fractures du col et 6 cancers colorectaux. Ce qu'on appelle un rapport bénéfice-risque mauvais, pour le moins qu'on puisse dire. Encore plus, si vous voulez, c'était pas des malades, c'est la pure prévention. Hein. Donc, on donnait ça à des millions de femmes. Et ça a été aussi une très, très, très mauvaise surprise de découvrir que la progestérone qu'on pensait qu'il allait compenser les effets promoteurs dangereux des œstrogènes était en fait au contraire un promoteur puissant. Bon, il y a eu toute une discussion, je passe un petit peu, parce que aux États-Unis c'était des œstrogènes équins, bon, en France c'était pas les mêmes, donc les gynécos ont protesté parce que c'était aussi ils avaient l'habitude de ce protocole. Mais bon, malheureusement, il y a eu des études sur les protocoles européens, hein, sur 6000 femmes âgées de plus de 65 ans, une équipe de l'INSERM dirigée par Pierre-Yves Scarabin montre que les taux élevés d'ostradiol sanguin exposent un risque plus important d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, qu'ils proviennent d'une forme orale ou percutanée. Hein. Donc, on a commencé à se calmer un peu sur l'enthousiasme, d'autant plus que le risque d'avoir du cancer du sein dans une cohorte de femmes enseignantes, la cohorte E3N, et s'est avéré encore plus embêtante, hein, parce qu'avec le protocole occidental, il y avait le risque d'avoir un cancer du sein était deux fois plus important pour les femmes au moment de leur traitement, et cinq ans après l'interruption du traitement, il était encore une fois 40 fois plus important. Ainsi que suivant après l'interruption donc ce traitement, excusez-moi. Donc l'Institut Gustave Roussy a jeté l'alarme. Alors aujourd'hui, malgré ça, il y a encore pas mal de gynécos qui sont attachés à ce traitement stroboprogestatif, simplement en étant plus prudent, le donnant moins longtemps. Mais ça me paraît pas très éthique, d'autant plus que on a un autre protocole qui malheureusement n'a pas été systématiquement promu. Mais on va le voir si je vous propose, Fabrice, de le voir après.
Exactement, merci beaucoup. On va faire une petite pause parce que là, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup
On peut faire des choses.
On peut faire des choses, voilà. Je perds mes mots, mais c'était pas en substitution quasiment de ces gynécos donc, qui n'utilisent plus ces traitements d'hormones. Donc bon, C'est intéressant quand même, et revenir rapidement, parce que sur les études que vous nous avez dit, que vous nous avez données, avec ces résultats qui étaient effectivement un peu éloquents dans le catastrophisme du terme, aux États-Unis, les oestrogènes utilisés étaient des oestrogènes équins,
ce qui voudrait dire que... De la jument.
Ce qui voudrait dire que d'autres oestrogènes, les études n'auraient pas été aussi catastrophiques, peut-être.
Ben si, justement, c'est ce que j'explique après. C'est qu'on a fait le protocole avec les oestrogènes utilisés en France, par exemple. Ben malheureusement, c'était parfois pire que, que les oestrogènes équins.
Très bien. Bon, alors, oestrogènes, non. Ça, c'est pas votre partie. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. C'est juste après ceci.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio, c'est la dernière partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle du changement du corps de la femme après, à partir de la ménopause. Et après, on parlait du traitement à base d'hormones très contesté, très contestable. Et vous alliez donc maintenant aborder peut-être une solution pour vivre sa ménopause plus confortablement à court et long terme, Jean-Paul.
Absolument. Et donc, en fait, ce qu'il faut, pour comprendre cette alternative bien meilleure, meilleur rapport bénéfice-risque, il faut comprendre que toutes ces hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone, proviennent du cholestérol, d'accord ? Le cholestérol est transformé dans une sorte d'hormone unisexe qui s'appelle la DHEA, hein, déhydroépiandrostérone, qui existe chez l'homme et chez la femme. Cette DHEA donne des androgènes, et chez l'homme et chez la femme, évidemment moins d'androgènes chez la femme que chez l'homme, mais il y a bien des androgènes, et les androgènes donnent en produit final les œstrogènes, d'accord ? Donc c'est une sorte d'hormone unisexe qui, étant plus lointaine que les œstrogènes, sont beaucoup moins dangereuses hein, sur la promotion des cancers du sein, et on verra qu'on a pu documenter des tas d'effets intéressants que ce soit sur le cerveau, sur le bien-être, sur la peau, etc. Une hormone du bien-être, en fait, est une meilleure longévité en bonne santé qui avait été documentée par le professeur Étienne-Émile Beaulieu, président de l'Académie des sciences. Ça a été un de ses sujets de travail important, qui a montré aussi que c'était un anti-Alzheimer, hein, donc protecteur du cerveau. Et donc, c'est une meilleure alternative à tout niveau. Aussi, il faut l'expliquer, c'est que un des problèmes de la ménopause, on l'a dit, c'est que la graisse repasse au-dessus et qu'il y a un risque de surpoids durable, plus dangereux que le surpoids qui était en dessous de la ceinture, hein, qui était plus physiologique, qui peut augmenter un peu l'arthrose, vous rappelez, et le mauvais retour veineux. Mais quand on donne les œstrogènes et la progestérone, on ne remonte pas les androgènes, d'accord ? Or, la ménopause, tout baisse, hein, c'est-à-dire les androgènes chez la femme. Or, les androgènes, par exemple, sont beaucoup plus anabolisants, hein, importants pour la masse musculaire, un truc bien connu des sportifs, hein, que les œstrogènes, et sont antidépresseurs. Ils sont aussi importants pour le sommeil, d'accord ? Donc, les perturbations, quand la femme a des bouffées de chaleur, elle dort moins bien, bon... Le mauvais sommeil, on en a parlé, hein, c'est très mauvais pour la santé parce que c'est la période dans laquelle on se répare. Donc le fait de donner du DHEA qui va remonter pas seulement les œstrogènes, mais de manière moins agressive et moins dangereuse, et aussi les androgènes, si vous voulez, donne un gain au niveau comme antidépresseur, comme anabolisant, comme réducteur du risque de surpoids et de déféminisation de la silhouette, comme on l'a dit. D'accord ? Donc, par contre, il faut bien documenter si... la personne a ou pas une baisse de DHEA. Alors, en fait, on dose dans le sang, hein, avant toute supplémentation, on dose dans le sang une forme de DHEA qui s'appelle sulfate de DHEA, SDHEA. Les taux étant plus élevés que le DHEA, c'est beaucoup plus parlant, si vous voulez, que la fourchette de la DHEA entre l'insuffisant et l'optimal, elle est faible, d'accord ? Tandis que là, les différences sont importantes. Par exemple, on considère comme normal à 20 ans d'avoir 2000 de SDHEA et à 70 ans d'avoir 500, d'accord ? C'était normal. Mais maintenant, on considère que c'est plus normal et on veut réoptimiser la SDHEA, même à 70 ans, au taux de 20 ans. D'accord ? Donc son taux diminue avec l'âge, mais il baisse aussi avec le stress, la dépression, pas mal de pathologies. Bon. Alors, pourquoi il faut faire un dosage ? Parce que chacun n'est pas égal. Il y a des femmes qui, à 35 ans, peuvent déjà avoir une baisse significative, d'accord ? Comme il y a des femmes qui ont une ménopause précoce, bon, par exemple les fumeuses, mais bon, il y a d'autres raisons. Et puis, il y a des femmes de 60 ans qui peuvent avoir un taux spontanément conservé, naturellement. Par exemple, à Okinawa, pour des raisons qu'on n'a pas totalement élucidées, ils ont en moyenne un taux circulant de SDHEA nettement plus élevé que dans la moyenne normale. Et vous rappelez qu'ils ont le record mondial de longévité en bonne santé. Bon, donc, moi, je me rappelle d'une patiente qui était venue me voir en consultation, c'était au début de mes consultations, et elle me dit « Ah, vous avez vu, docteur, c'est à la mode, on donne de la DHEA, mais je me pose des questions parce que j'ai la peau grasse, des boutons, je perds mes cheveux, j'ai des tensions dans les seins et tout. Bon. » Je lui dis « On vous a fait un dosage ?» Ben non. Donc, on a fait le dosage, elle était largement surdosée, si vous voulez, au départ, en fait, elle avait, c'était fait partie de ces femmes qui avaient naturellement un taux de DHEA. Il ne faut pas donner de la DHEA à quelqu'un qui a un taux déjà normalement élevé. D'accord ? Donc, bon, quel est l'intérêt ? Donc, il faut faire ce dosage avant toute supplémentation. Qu'est-ce que montrent les études ? Je vais résumer. Une meilleure libido, meilleure sexualité. Maintenance de la masse musculaire, l'effet anabolisant, hein, androgène, on a parlé, réduction du risque de surpoids, ce qui nous intéresse de manière première ici, amélioration de la masse osseuse, ce qui est lié à la masse musculaire, des effets antidépresseurs, des effets anti-vieillissement sur la peau, une protection cardiovasculaire et surtout une protection cérébrale, hein, contre le déclin cognitif et potentiellement sur la maladie d'Alzheimer. Donc au total, le rapport bénéfice-risque du DHEA paraît très très supérieur à celui du THS ancien. Mais il y a quand même une précaution, hein, c'est de ne pas donner, en fait, aucune hormone ne doit être donnée par la bouche, péros comme on dit en médecine, mais exclusivement en application percutanée, à travers la peau. Hein, donc on a des sortes de spray, on appuie dessus, et ça sort une crème, qu'on met une noisette sur, enfin, c'est 15 mg par dose, qui on met sur les cuisses et on masse les cuisses et ça traverse les cuisses et ça fait effet comme ça. Ça permet, si vous voulez, de pas passer par le foie, d'avoir des, c'est beaucoup plus safe de faire ça pour toute hormone. Puis on peut se protéger encore plus puisqu'on augmente quand même les taux de phytoestrogènes, d'œstrogènes et d'androgènes. Par des phytoestrogènes, on a vu qu'ils modulent la sensibilité aux oestrogènes ou des lignans. Bon, il y a quand même des contre-indications. Hein, bon, si on a des facteurs de risque de cancer du sein, encore plus un cancer du sein, là, ça augmente quand même les. Donc, on va pas s'amuser du tout à donner de la DHEA.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur. On rappelle quand même que avant tout recours à ces hormones ou tout recours à la DHEA, enfin, vous passer par votre professionnel de santé car ces informations ne se substituent pas à un avis médical, bien évidemment, hein, ni à un traitement. Donc, les informations de Dr Jean-Paul Curté, parlez-en, au contraire, avec votre professionnel de santé. S'il est plutôt hormone, vous dites, bah, j'ai entendu le Dr Jean-Paul Curté, il me dit que voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire et qu'il faudrait peut-être se renseigner sur le DHEA. Voir ce qu'il va vous dire. Et puis, sinon, vous donnez le numéro de téléphone de Jean-Paul, le 06. Non, vous voyez les trucs, le téléphone.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a un annuaire des nutrithérapeutes, oui. Par exemple, sur l'Union des nutrithérapeutes francophones. Voilà, udnf.eu.
Voilà, par exemple. Mais surtout, rapprochez-vous de votre professionnel de santé avant toute utilisation et tout recours. Merci beaucoup, docteur. On va se retrouver la semaine prochaine.
Et absolument, on continue.
Bien,
jusqu'à l'été.
Allez, on continue en dernière ligne droite. Et d'ailleurs, on rappelle, puisque la dernière ligne droite sera ponctuée par un événement en présentiel, un événement incroyable auquel vous êtes conviés, durant lequel vous interviendrez d'ailleurs aussi, surtout, c'est le vendredi 7 juin, le NutriTalk Gala, premier événement organisé par Nutri Radio. Donc le NutriTalk, ça parle, on va parler ensemble. Il y a des tables rondes dans un premier temps, fin d'après-midi, ensuite un petit échange très sympathique, un petit dîner de gala, un spectacle, parce qu'on vous prépare quelque chose quand même. Bon, c'est le premier événement, comme dirait l'autre, on vous promet pas la grande bouffe des grands soirs, mais juste pour l'été, à manger et à boire. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez passer une bonne soirée, un bon moment. On va à la fois mélanger le fond et le fun. C'est ce qu'on aime sur Nutri Radio, du fond pour que vous puissiez apprendre, partager, et puis un peu de fun quand même, parce qu'il faut se détendre. On en a bien besoin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie événements, et beaucoup d'intervenants seront là. Donc, vous pourrez échanger avec eux. Cette émission, elle sera dispo à partir de dimanche 18h. En podcast, comme chaque dimanche d'ailleurs, sur nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Jean-Paul.
Allez, au revoir à tous et puis à bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.